Très heureux d'être avec vous pendant cette pause repas. Florian Hausse pour vous accompagner avec vos émissions dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Dans 5 minutes, l'interview de ce matin avec Isabelle Honnel. Elle sera avec Philippe Rimbaud, président de l'Université fédérale de Toulouse, pour parler de la première ville étudiante, et c'est notre belle ville rose. L'agenda d'Emmanuel Pella arrive dans 20 minutes dans son émission Église Actualité dans la deuxième partie de l'heure. Nous allons faire le tour des diocèses et nous partons dans le Lot. Puis votre chronique sur les chemins de Saint-Jacques avec Sébastien Pénary, c'est en fin d'heure. Juste avant, les titres avec Luc Vidal-Giraud dans l'ensemble de notre partie d'Occitanie.
L'accélération de la propagation du Covid en Occitanie oblige le CHU de Toulouse à s'adapter. L'hôpital Purpan a annoncé hier être passé en plan hôpital en tension. Très concrètement, cela veut dire que certaines opérations non urgentes sont reportées et les visites aux patients interdites. L'EHPAD de Sévrac d'Aveyron vient d'annoncer un 17e décès parmi ses résidents. Après la détection d'un foyer d'infection au sein de l'établissement il y a 3 semaines, la situation semble maîtrisée, mais ce patient qui était en fin de vie a néanmoins été emporté. Toujours à propos de cette crise sanitaire, une délégation de cafetiers et de restaurateurs toulousains doit être reçue aujourd'hui en préfecture. Ils sont vent debout contre les nouvelles règles leur imposant une fermeture anticipée à 22h. Carole Delga sera bien candidate à sa succession à la tête de l'Occitanie. La présidente de notre région le dit aujourd'hui dans un entretien à la Dépêche du Midi. Le phénomène reste pour le moment une énigme, mais il est bien réel. Les mutilations de chevaux se multiplient dans notre pays depuis plusieurs mois et n'épargnent aucune région. Dans le Tarn-et-Garonne, 2 attaques ont été enregistrées au cours du mois de septembre. Un collectif de bénévoles s'est créé pour surveiller les chevaux et prévenir d'éventuelles mutilations. L'Institut des jeunes aveugles de Toulouse choisit le Lot. Il va implanter à Cahors un centre d'éducation spécialisé pour déficients visuels. À Gersois, à la direction des antennes de France Télévisions, Florent Dumont, 41 ans, originaire de Lombez, a été nommé à ce poste par la présidente du groupe public, Delphine Ernott. Et puis le trafic ferroviaire entre Montauban, Cahors et Brive devrait être rétabli dans la journée. Il avait été interrompu ce week-end suite à un problème d'alimentation électrique.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour l'essentiel de l'actualité.
La météo.
Pour cet après-midi, vous aurez des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées, 17 degrés de moyenne. Demain, le retour du soleil avec quand même des températures plutôt fraîches. 6 degrés à Rocamadour ainsi que dans l'Aveyron, 8 sur le bord de la Garonne à Toulouse, ainsi qu'à Auch, et 10 pour Saint-Gaudens. L'après-midi, quelques nuages viendront décorer le ciel, mais vous aurez bien évidemment des rayons de soleil, avec le thermomètre qui affichera du 18 degrés pour le Lot à Auch et dans la Haute-Garonne, ainsi qu'à Lourdes et Tarbes, 14 pour Rodez.
Présence à Foix, 100.2.
Toulouse se hisse à nouveau au plus haut rang des villes étudiantes, et ceci pour la 4e année consécutive. La ville rose en première place, donc devant Rennes et Lyon. C'est le résultat du classement L'étudiant rendu public le 15 septembre. Alors par les temps qui courent, les bonnes nouvelles ne sont pas si fréquentes pour qu'on ne prenne pas le temps de s'y arrêter. Et c'est pas mon invité, je crois, qui dira le contraire. Bonjour Philippe Rimbaud.
Bonjour.
Vous êtes l'heureux président de l'Université fédérale de Toulouse. Heureux président, car finalement, les étudiants à Toulouse, ils relèvent à peu près tous de l'Université fédérale. Ce classement, c'est la récompense de vos efforts à vous, Philippe Rimbaud. Comment vous l'avez reçu?
Oui, on le voit comme la récompense d'une série d'efforts, ou d'efforts collectifs, si vous préférez, c'est-à-dire à la fois ceux de nos établissements pour proposer des formations au meilleur niveau, et puis ceux que l'on fait collectivement à travers un certain nombre de dispositifs comme l'accueil Welcome Desk, par exemple, situé aux allées Juliette, qui sont vraiment destinés à favoriser et à aider les étudiants à s'installer dans la ville.
Alors vous dites nos établissements, on va rapidement dresser ce que recouvre la réalité Université fédérale de Toulouse. D'abord d'un point de vue géographique, vous êtes au-delà des frontières de la ville rose, hein ?
Tout à fait, puisque les établissements sont situés dans l'ensemble de l'Académie de Midi-Pyrénées, en quelque sorte, l'Académie de Toulouse. Nous avons donc les trois universités qui sont elles-mêmes présentes dans diverses parties du territoire. À côté de cela, il y a une bonne quinzaine d'écoles spécialisées, alors principalement des écoles d'ingénieurs, bien entendu, mais aussi des écoles que l'on retrouve dans très peu d'endroits du territoire. Je pense par exemple à l'école d'architecture, à l'école vétérinaire, à Sciences Po et à quelques autres que l'on on pourrait mentionner. Nous, on couvre effectivement l'ensemble de l'enseignement supérieur public et on intègre également l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs privés.
L'ICAM, l'ENAC, je crois aussi, TBS, hein, oui, fait partie de l'université fédérale. Si on se concentre sur Toulouse uniquement, ça représente combien d'étudiants ?
Alors, globalement, nous sommes à 105 000 étudiants et on a entre 10 et 15, enfin 12 000, on va dire, qui sont plutôt en dehors de Toulouse.
12 000 en dehors de Toulouse, ça veut dire qu'il en reste beaucoup sur la Ville Rose. Et donc de la Ville Rose, c'est d'elle qu'il s'agit, quatrième année consécutive à être plébiscitée devant Lyon et Rennes. Paris est à la 9e place. Alors pour être tout à fait juste et transparent, il faut tout de même préciser la méthodologie. Hein. 5 familles de critères ont été pris en compte. L'emploi, la vie étudiante, la formation, l'attractivité et le cadre de vie. Les principales sources pour établir ce classement sont les données INSEE et tout ce qui est fourni par donc, l'INSEE, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Culture, Météo France. En tête de ce classement, Toulouse, avec une première place, une première position, notamment pour la vie étudiante. Hein, les étudiants ne s'y sont pas trompés. Il fait la vie est douce à Toulouse. La formation, elle n'arrive pas tout de suite et elle arrive en troisième. Hein, et c'est peut-être là, Philippe Rimbaud, le biais du classement. C'est pas à Toulouse pour autant qu'il y a les meilleures écoles. C'est pas ça que nous dit le classement. Hein.
Non, en tout cas, c'est pas d'abord ce genre de classement sur les meilleures écoles, il n'y en a pas beaucoup déjà.
Ouais.
C'est extrêmement difficile de trouver des critères qui seraient des critères d'excellence des formations. On peut trouver des choses autour de l'insertion professionnelle, on peut trouver des choses autour de l'attractivité des formations. En tout cas, c'est vrai que celui-ci, il est beaucoup plus global. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant parce que justement, on prend en compte l'ensemble des pans de la vie étudiante, que ce soit effectivement le cadre d'études, mais dans toute sa complexité, c'est-à-dire avec les enjeux de transport, les enjeux de logement, les enjeux de culture, les enjeux sanitaires, aujourd'hui évidemment, comment les passer sous silence. Donc voilà, cette globalité me paraît tout à fait intéressante.
Et alors, cette offre de formation de la Ville Rose à Toulouse, comment vous la qualifieriez-vous ? C'est quoi les forces de Toulouse ?
Les forces de Toulouse, c'est la diversité de son offre de formation. Je pense qu'on est une des seules villes en province, ça c'est sûr, et quand même une des rares villes dans le territoire à avoir un panel de disciplines complet. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquement tout faire en termes de formation à Toulouse. Hein, je le disais tout à l'heure, il y a des grandes écoles qui sont rares sur le territoire et elles sont pratiquement toutes présentes ici à Toulouse. On a aussi les écoles de la météo, par exemple, que je n'ai pas citées tout à l'heure, qui est quand même très peu fréquent. Donc voilà, on a une diversité d'offres qui est liée à un spectre disciplinaire extrêmement large. Ce qui nous permet d'ailleurs, ce qui nous donne une vocation à faire aussi des formations pluridisciplinaires qu'on ne pourrait pas rencontrer ailleurs. On a des doubles diplômes originaux entre TBS et l'ENAC, entre Sciences Po et l'INSA, entre certaines universités toulousaines et justement nos écoles qui sont des choses qu'on ne va vraiment pas retrouver ailleurs sur le territoire.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on pense aussi évidemment au terreau de l'aéronautique, une force vive en termes d'école d'ingénieurs, peut-être aussi ?
Ah oui, bien entendu. Ce qu'il faut voir, c'est que les étudiants, notamment quand ils choisissent des écoles d'ingénieurs, vous évoquiez tout à l'heure la qualité des formations, ils s'appuient là-dessus, mais ils s'appuient aussi sur tout l'environnement de ces écoles et le fait de disposer d'un écosystème très dynamique. C'est un atout. Alors c'est un atout dont il faut aujourd'hui, dans les circonstances actuelles évidemment, dont il va falloir que l'on s'appuie à travailler aussi avec nos, avec nos partenaires industriels, puisque là, on sait que la filière aéronautique a été mise en danger par la crise. Néanmoins, je pense qu'il y a des capacités de rebond qui existent, et il va falloir qu'on travaille là-dessus. On a un territoire qui, c'est vrai, est orienté sur l'aéronautique, mais pas seulement, c'est l'ensemble du système embarqué, c'est le secteur spatial qui, lui aussi, est très dynamique aujourd'hui. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qu'il faut prendre en considération.
Et alors, ces étudiants qui viennent à Toulouse, vous en avez dit 105 000 moins 15 000, donc ça, on fait le calcul. Ils viennent de partout en France, exclusivement de la région, de l'étranger peut-être?
Alors oui, bien sûr, chaque année, on a environ 16 000 étudiants étrangers qui sont présents à Toulouse. Alors, on en aura vraisemblablement un peu moins cette année du fait des circonstances, mais ça, c'est un mouvement international, on peut le noter. Donc oui, des étudiants étrangers, bien entendu. Et ensuite, une vraie attractivité de l'académie, puisque chaque année, il entre dans l'académie beaucoup plus de bacheliers extérieurs à cette académie qu'il n'en sort que de bacheliers toulousains ne sortent vers d'autres académies. Donc il y a une attractivité nationale qui est liée à la qualité des formations, bien entendu, à leur attractivité, à la diversité de ces formations que j'évoquais tout à l'heure.
Alors, comment est-ce que vous allez, quatrième année consécutive, que ce classement place Toulouse en tête, sur ce que ça va être quoi vos perspectives, les chantiers sur lesquels vous allez travailler pour continuer à faire de Toulouse dans les prochaines années cette ville appréciée des étudiants, et puis peut-être faire en sorte que non seulement la vie étudiante soit sympa à Toulouse, mais que les formations soient elles aussi de qualité et de la même qualité que celles qu'on peut trouver à Paris, par exemple?
Alors c'est un challenge permanent, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Donc au niveau des formations, il faut savoir que ces formations, on les évalue chaque année grâce à des retours de nos étudiants et on essaye de les faire évoluer en fonction de l'évolution des métiers de demain, en fonction des retours qui sont faits par les étudiants pour intégrer de nouvelles dispositions pédagogiques. Par exemple, aujourd'hui, travailler en mode projet dans des masters, enfin en tout cas au niveau master, que ce soit à l'université ou en école d'ingénieur, c'est quelque chose qui est plébiscité. Il faut que les étudiants s'habituent à cette modalité d'organisation du travail. Sous forme d'ateliers, sous forme de projets qui sont faits avec des partenaires, que ce soit des entreprises, des associations, etc. Donc ça, c'est une réflexion pédagogique qui est permanente, qui aujourd'hui se traduit aussi par l'hybridation des formations, c'est-à-dire l'intégration de la formation à distance. Ça, c'est un premier volet. Et puis sur le volet de la vie étudiante, là aussi, on cherche toujours à identifier les plus grandes difficultés et à travailler dessus. Là, ça va se faire à travers la mise en place d'un nouveau schéma d'amélioration de la vie étudiante entre 2021 et 2026. On a commencé le travail à travers une grande enquête en janvier dernier de nos étudiants qui a permis d'identifier un certain nombre de sujets, toujours sur le logement, les transports. On met en place un observatoire du logement étudiant pour justement bien apprécier quels sont les besoins de nos étudiants sur ce terrain-là. On travaille avec la métropole toulousaine sur les questions de transport, notamment les transports doux, bien entendu. On travaille bien entendu sur les questions de culture, sur tout ce qui est également lié au développement durable, parce qu'il y a une grande appétence de nos étudiants sur ces questions-là. Et pour vous donner un exemple très concret, on va enrichir l'offre qui est présente à l'accueil Welcome Desk en intégrant un point d'accès au droit avec la coopération du tribunal de Toulouse. Donc il y aura des avocats qui seront présents une fois par semaine et qui seront là pour donner du conseil juridique aux étudiants qui en ont besoin.
Alors, Philippe Rimbaud, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes l'heureux président de l'Université fédérale de Toulouse et que nous sommes ensemble pour parler de ce classement, du résultat du classement établi par l'étudiant, le journal L'étudiant le 15 septembre, qui place Toulouse en tête du classement, la ville où il fait bon étudier. Alors, évidemment, le Covid est passé par là. Toulouse, dans le classement, est d'ailleurs en première position pour l'emploi, on en a un petit peu parlé dans notre entretien, avec la crise économique annoncée, on craint évidemment que Toulouse soit moins attractive. Comment est-ce que vous allez prendre en compte cette réalité?
Alors, on le prend en compte de plusieurs façons. D'abord, en essayant de proposer un accompagnement de plus en plus personnalisé dans la plupart de nos formations aux étudiants, pour les aider à mieux trouver des stages de fin d'études qui sont souvent des stages d'insertion. Donc là, il y a eu un effort tout particulier qui a été donné. Et après, de manière plus prospective, on va dire, on travaille aussi avec un certain nombre de nos partenaires industriels à identifier des métiers qui vont évoluer, des métiers de demain qui émergent, que ce soit dans le secteur de l'intelligence artificielle. On a été aussi leader au niveau national et on est le siège d'un des quatre instituts d'intelligence artificielle, interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Et donc, à travers ce genre d'initiative, on est plus capable d'identifier les métiers qui seront au cœur des préoccupations des entreprises de demain et donc de permettre à nos étudiants d'être formés pour ces métiers-là.
Est-ce que tous les étudiants toulousains auront un stage cette année ?
On a réussi, me semble-t-il, dans l'urgence à pourvoir. Alors, il y a eu un certain nombre de stages qui ont été annulés au moment du confinement. Maintenant, il y a eu des modalités de rattrapage. Il y a eu des stages aussi qui ont été mis en place à distance. Sur l'année à venir, à ce stade, on devrait arriver à fonctionner. Évidemment, s'il y avait une aggravation des conditions sanitaires, on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir là aussi quelques annulations. Et à ce stade, en tout cas, je crois que les entreprises continuent de manifester un grand besoin d'étudiants et nos étudiants ont l'appétence pour y aller.
Et on a l'appétence pour y aller. Alors, on va terminer avec un petit point à Covid, hein, même si ce n'est pas l'objet de notre entretien. Où en sont les étudiants? Tous n'ont probablement pas repris le chemin de l'université. Comment ça se passe pour eux en ce moment?
Alors, dans la plupart des établissements, il y a des modalités particulières qui ont été mises en place pour la rentrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hybridation des formations, avec une partie de ces formations qui se fait à distance, une partie qui se fait en présentiel. Ce qui permet d'avoir moins de monde et donc de faciliter le respect des gestes barrières. Donc ça, ce sont des choses qui ont été mises en place.
Et après, pas d'amphi bondé à Toulouse.
Je pense que maintenant, on en a beaucoup moins. En tout cas, il y en a eu au départ où certaines formations avaient choisi de reprendre sous forme présentielle. Elles sont pour l'essentiel repassées à des modalités hybrides aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, on a beaucoup moins d'amphi bondé qu'on aurait pu l'imaginer.
Donc vous êtes serein pour la poursuite des études, Philippe Rimbaud ?
Oui, on est toujours vigilant, hein, parce que c'est vraiment un travail du quotidien, mais néanmoins, on est serein, parce qu'encore une fois, on a eu une grande implication de nos personnels, on a une vraie discipline de nos étudiants dans les établissements. Il y a eu parfois quelques excès en dehors, et on a vu que ça a pu occasionner des contagions. Je pense que maintenant, les choses sont en train d'être assimilées par les étudiants, en tout cas nous, notre discours reste constant sur la nécessité absolue de respecter les gestes barrières et de faire preuve de civisme. Et je sais qu'on peut compter sur la responsabilité à la fois de nos personnels et de nos étudiants.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Rimbaud. Vous êtes président de l'Université fédérale de Toulouse. Et donc, ensemble, nous sommes revenus sur cette information positive. Et s'il en est, Toulouse se hisse à nouveau au plus haut rang des villes étudiantes. Et ceci pour la quatrième année consécutive. Un grand merci à vous et bonne rentrée à ceux qui ne seraient pas encore rentrés.
Église Actu arrive dans 4 minutes, suivi de l'essentiel de l'actualité, la météo dans notre partie d'Occitanie où le soleil se montrera plus que ces derniers jours. Mais avant tout ça, de la musique. Et un grand classique sur présent, c'est Daniel Balavoine avec l'Aziza. Il est midi 18 tout pile.
Oh,
Présence à Toulouse, 97.9.
Église Actualité, Emmanuel Pellat.
Aujourd'hui, à Toulouse, pour rappel, les Cotopaïs, ces centres spirituels jésuites du Sud-Ouest, proposent un temps appelé « Relire ensemble Laudato Si », la première d'une série de soirées pour parcourir l'encyclique écologique du pape François, texte dont on dit qu'il est l'un des plus importants de ce début du 21e siècle. Rendez-vous aujourd'hui à 19h30, 9 rue Montplaisir à Toulouse pour tout renseignement. Un site internet www.coteaux-pais.net. Ce jeudi 1er octobre à Pau, pour rappel également à l'occasion de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, la communauté des Béatitudes de Nailles propose une soirée pétale de rose, un temps de prière et d'intercession sous le patronage de celle que l'on appelle aussi la Petite Thérèse. Rendez-vous ce jeudi 1er octobre à l'église Sainte Thérèse à Pau et non à Nailles, comme indiqué hier dans cette chronique. Ce vendredi 2 octobre, à Bellegarde-Sainte-Marie, les frères de l'abbaye Sainte-Marie du Désert proposent de venir participer à une célébration d'action de grâce pour le jour anniversaire de la béatification du père Marie-Joseph Cassan. Un temps important puisque les moines de ce monastère cistercien, fondé en 1852, vont quitter ce lieu faute de vocation. Rendez-vous ce vendredi à 18h à l'abbaye Sainte-Marie du Désert à Bellegarde-Sainte-Marie. Ce vendredi 2 octobre à Toulouse, la confrérie du Rosaire organise une veillée de prière pour, je cite les organisateurs, la paix, les familles, les vocations et autres intentions confiées. La confrérie du Rosaire est une association chrétienne nationale visant à diffuser largement la pratique de cette prière à la Vierge multiséculaire dans l'Église catholique. Rendez-vous ce vendredi à 20h à Notre-Dame-de-Lourdes à Toulouse. Enfin, dimanche 4 octobre à Saint-Gaudens, à noter un temps de bénédiction des animaux par le père Florent, curé de Saint-Gaudens. Une initiative originale qui dit l'amour que les chrétiens portent pour toute la création. Rendez-vous à 16h au calvaire de Pointissinard dans le secteur de Saint-Gaudens. Pour tout renseignement, un site internet www.toulouse.catholique.fr.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
À l'essentiel de l'actualité avec notre journaliste de Radio Présence, j'ai nommé Luc Vidal-Giraud.
Bonjour à tous. L'accélération de la propagation du Covid en Occitanie oblige le CHU de Toulouse à s'adapter. L'hôpital Purpan a annoncé hier être passé en plan hôpital en tension. Très concrètement, cela veut dire que certaines opérations non urgentes sont reportées et les visites aux patients interdites. Les urgences ne sont pas pour autant fermées, mais une filière Covid a été créée afin de ne pas mélanger les cas infectés avec les autres patients. En août dernier, l'Agence régionale de santé d'Occitanie demandait aux malades d'appeler leur médecin généraliste au lieu de se rendre directement aux urgences qui, comme leur nom l'indique, sont destinées aux urgences graves et vitales. L'EHPAD de Sévrac d'Aveyron vient d'annoncer un 17e décès parmi ses résidents. Après la détection d'un foyer d'infection au sein de l'établissement, voici 3 semaines, la situation semble aujourd'hui maîtrisée, mais ce patient qui était en fin de vie a néanmoins été emporté. Les équipes de l'EHPAD ont été renforcées par un médecin gériatre, un cadre de santé et un médecin coordonnateur d'un autre EHPAD à la mi-septembre. Toujours à propos de cette crise sanitaire, une délégation de cafetiers et de restaurateurs toulousains doit être reçue aujourd'hui en préfecture. Ils sont vent debout contre les nouvelles règles leur imposant une fermeture anticipée à 22h. 250 professionnels, propriétaires ou gérants de bars et de restaurants de la Ville Rose se sont réunis hier en assemblée générale. Ce qu'ils redoutent par-dessus tout, c'est la fermeture totale de leur établissement comme à Marseille. Le collectif envisage de déposer des référés liberté pour attaquer la décision du préfet. De son côté, l'Union Métiers des Industries de l'Hôtellerie de la Haute-Garonne demande le déblocage de vraies aides financières et non, je cite, une aumône de 1500 euros que les professionnels n'auraient d'ailleurs pas tous reçus selon le syndicat. Carole Delga sera bien candidate à sa succession à la tête de l'Occitanie. La présidente de notre région le dit aujourd'hui dans un entretien à la Dépêche du Midi. Interrogée sur la situation économique, Carole Delga rappelle que la région a débloqué un plan d'action de 100 millions d'euros pour la filière aéronautique. Il faut, dit-elle, maintenir au maximum les compétences, les salariés. On a besoin de ces savoir-faire. Le jour où il y aura la reprise, il faudra être capable de répondre à la demande. La présidente d'Occitanie se dit également persuadée que les lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan seront réalisées. Vous verrez, la LGV proclame-t-elle. Interrogée enfin sur la 5G qui suscite des inquiétudes alors que débutent aujourd'hui même les enchères pour l'attribution des fréquences, Carole Delga se dit favorable à un moratoire jusqu'en avril lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire restituera son analyse. On ne peut pas balayer comme ça les inquiétudes. Il ne s'agit pas d'attendre 3 ans, mais 6 mois, le temps de prendre connaissance de ce rapport. Fin de citation. Et puis à signaler que, comme tous les autres présidents de région, Carole Delga était hier à Matignon pour ratifier l'accord de partenariat autour du plan de relance, une manne de 100 milliards d'euros qui, en Occitanie, devrait prioritairement bénéficier aux transports et aux énergies renouvelables. Pour le rail, la région a notamment ciblé les lignes prioritaires, le train jaune, Alès-Bessèges, Rodez-Sévrac-Millau, Carcassonne-Limoux-Quillan ou encore Montrégeau-Luchon. Le phénomène reste pour le moment une énigme, mais il est bien réel. Les mutilations de chevaux se multiplient dans notre pays depuis plusieurs mois et n'épargnent aucune région ni aucun département. Dans le Tarn-et-Garonne, 2 attaques ont été enregistrées début septembre. Un collectif de bénévoles s'est créé pour surveiller les chevaux et prévenir d'éventuelles mutilations. Baptisé SOS Chevaux, ce collectif entend faire un recensement le plus complet des animaux, rassurer leurs propriétaires, mais aussi faire acte de présence dans la campagne pour dissuader d'éventuels actes de malveillance. L'idée n'est surtout pas de se faire justice soi-même. Le collectif travaille en collaboration avec la gendarmerie qui multiplie, elle, aussi les rondes dans le département. Sur le terrain, les gendarmes des brigades de Castel-Sarrazin et de Caussade vont aussi à la rencontre des éleveurs pour vérifier leurs installations et leur donner les recommandations à suivre pour sécuriser leurs animaux. L'Institut des jeunes aveugles de Toulouse choisit le Lot. Il va implanter à Cahors un centre d'éducation spécialisé pour déficients visuels. Ce lieu de vie situé à Bégou, le long de la route de Villefranche de Rouergue, sera ouvert sur la ville et sur la vie associative et commerciale du quartier. Il est prévu pour l'accueil de 56 résidents et doit créer une 60aine d'emplois nouveaux ou transferts de Toulouse. En projet également, 8 appartements d'intégration. L'entrée en service de cette nouvelle structure est prévue à la fin de l'année 2022. Un Gersois à la direction des antennes de France Télévisions, Florent Dumont, âgé de 41 ans et originaire de Lombez, a été nommé à ce poste par la présidente du groupe public Delphine Ernot. Florent Dumont dirigeait jusque-là la stratégie des publics de France Télévisions. En Ariège, la route départementale 25 menant au col de Payère est de nouveau accessible. Depuis ce week-end, un poids lourd s'était bloqué dans un virage alors que, vu sa longueur, il n'était pas autorisé à s'engager sur cette route. Les agents de la direction des routes départementales et l'entreprise de transport propriétaire du camion sont intervenus pour établir la circulation. Transport toujours, le trafic ferroviaire entre Montauban, Cahors et Brive-la-Gaillarde devrait être rétabli dans la journée. Il avait été interrompu ce week-end suite à un problème d'alimentation électrique d'une caténaire endommagée par les intempéries. Des autocars de substitution ont été mis en place. La circulation des trains n'est en revanche pas impactée entre Toulouse et Montauban.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres.
La météo.
Pour cet après-midi, vous aurez des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées, 17 degrés de moyenne. Demain, le retour du soleil avec quand même des températures plutôt fraîches. 6 degrés à Rocamadour ainsi que dans l'Aveyron, 8 sur le bord de la Garonne à Toulouse ainsi qu'à Auch et 10 pour Saint-Gaudens. L'après-midi, quelques nuages viendront décorer le ciel, mais vous aurez bien évidemment des rayons de soleil avec le thermomètre qui affichera du 18 degrés pour le Lot à Auch et dans la Haute-Garonne ainsi qu'à Lourdes et Tarbes, 14 pour Rodez. Allons faire le tour des diocèses et nous allons dans le département des truffes et du bon vin à consommer avec modération, bien sûr. D'ailleurs, là-bas, vous nous écoutez sur le 92.5. Je vous souhaite un excellent appétit si vous venez de vous mettre à table.
Radio Présence à Cahors, 92.5.
Eh bien, en voiture, les amis, nous partons à Cahors retrouver le père Luc Dangean. Bonjour, père.
Bonjour, Isabelle.
Alors, vous êtes avec nous pour pointer du doigt, nous montrer les événements qu'il nous faut noter sur notre agenda à la page événements à retenir. Qui inscrit-on ?
Alors, aujourd'hui, je voudrais partir de la lettre pastorale de notre évêque. Notre évêque écrit depuis qu'il est là. Chaque année, en mois de juin, une lettre pastorale. Et cette année, il a nommé « Participons à la beauté de la terre ». Donc, évidemment, une lettre qui évoque l'écologie, Laudato si. Et donc, à partir de là, évidemment, des événements vont se produire dans le diocèse. Alors, simplement, peut-être pour situer cette lettre, il a voulu la situer en reprenant, évidemment, la lettre du pape. situé concrètement dans le diocèse, dans notre diocèse. Et du coup, il a lancé. Alors, il y a eu une conférence en fin août. 80 personnes se sont réunies pour une réflexion sur la création. Et à partir de cette lettre, eh bien, des initiatives vont se produire dans les différentes paroisses du diocèse. Voilà.
C'est un top départ que vous nous annoncez.
Voilà, alors évidemment, les paroisses le seront à leur rythme, évidemment. Mais alors, ce que je peux retenir pour aujourd'hui, le dimanche 4 octobre, alors, toujours en lien avec cette lettre, dans la paroisse de Souillac, qui est située au nord du Lot, hein, dans la vallée de la Dordogne, lotoise, et une messe Laudato Si va être célébrée. Alors la finalité de cette messe, c'est de mettre en valeur les événements de la nature qui entrent dans l'Eucharistie. Voilà. À partir des textes bibliques, à partir aussi des gestes, des processions d'offrandes, on met en valeur un petit peu tout ce qu'on ne voit plus, tellement on est habitué à entendre les paroles à l'Eucharistie et qui évoquent et qui nous ouvrent finalement à la beauté de la création.
Alors, 4 octobre à Souillac, quelle heure?
À Souillac, à 11h.
Voilà. 11h, c'est noté.
Il va y avoir aussi à Pressac, on redescend dans le sud-ouest du département, dans la vallée du Lot. Cette grande paroisse, une première rencontre de partage sur la lettre pastorale de l'évêque. Elle sera à cette réunion le jeudi 8 octobre, pendant les salles paroissiales à Pressac, à 20h15. Là, il s'agira de travailler sur la lettre de l'évêque qui est publiée sur le site internet du diocèse de Cahors. Vous pouvez retrouver, évidemment. Donc, une première rencontre, il y en aura d'autres, mais la première rencontre sera le 8 octobre, salle paroissiale de Pressac, à 20h15. Un autre événement qui n'est pas lié sans doute à la lettre, mais enfin, c'est à son auteur, en tout cas, l'évêque fêtera ses 5 ans d'ordination épiscopale. Il célébrera la messe donc, ce 4 octobre, c'est ce jour-là qu'il a été ordonné, à la cathédrale à 10h30, dimanche prochain.
Voilà. Eh bien, nous serons en union avec lui et avec tout votre diocèse de Cahors, qui, on l'a bien compris, se met aux couleurs de Laudato Si, de la beauté de la terre et de la création, grâce à la lettre pastorale de votre évêque que l'on peut effectivement retrouver sur le site du diocèse de Cahors. Un grand merci, Père Luc Dangean. On vous retrouve dans 15 jours. Et demain, je vous emmène dans le diocèse de Pamiers-Mirepoix. Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Sur les chemins de Saint-Jacques. Une chronique proposée par Sébastien Pénary avec l'Agence des chemins de Compostelle.
Bonjour. L'Agence des chemins de Compostelle devait célébrer en 2020 les 30 ans de sa création. Si le Covid a eu raison des festivités de cet anniversaire, nous pouvons évoquer cet événement quelque peu oublié dans le monde jacquaire. C'est d'abord un contexte, celui des années 1980 et la volonté, face au libéralisme d'outre-Atlantique et face au monde soviétique, de créer une Europe unie, fondée sur un grand marché et sur une citoyenneté européenne. À partir de 1990, la fin du rideau de fer ouvrait l'espoir d'une Europe unifiée et pacifique. Le Conseil de l'Europe prônait le développement d'un tourisme basé sur la rencontre des Européens, sur le patrimoine commun des Européens. Le Conseil lance alors le programme des itinéraires culturels européens en 1987, en reconnaissant les anciennes voies de pèlerinage, et en particulier les chemins de Compostelle, comme un événement fondateur d'une identité commune aux Européens. Par ailleurs, en 1986, l'Espagne entre dans le marché commun. L'Espagne, à la sortie de la période autoritaire franquiste, voulait rejoindre le camp des démocraties et développer son économie. Le chemin de Saint-Jacques symbolisait à la fois le lien culturel, géographique et politique qui rattachait l'Espagne de toujours à l'Europe. Le chemin pouvait aussi bien constituer un atout pour son développement touristique. Cette même année 1986, en France, les conseils régionaux deviennent des collectivités de plein exercice, aux compétences étendues par les lois de décentralisation. Ils ont notamment la compétence du développement touristique et de la mise en valeur des identités régionales, ou encore la possibilité de réaliser de la coopération décentralisée avec des régions d'autres pays. À cette même époque, des communes s'organisent en associations de communes pour agir ensemble en faveur de l'aménagement et la valorisation des chemins de Saint-Jacques. C'était leur manière de vouloir s'inscrire, elles aussi, dans le mouvement vers une Europe unie. Des 3 ou 4 associations de communes qui virent le jour à cette époque pour organiser une action publique sur les chemins, une seule subsiste, l'association sur les pas de Saint-Jacques qui anime le chemin du Puy-en-Velay jusqu'à Livignac-le-Haut. Une seule subsiste parce que les conseils régionaux vont s'organiser en créant une agence, l'Association de coopération interrégionale Les Chemins de Compostelle. Ils vont alors proposer aux communes des démarches contractuelles pour les chemins. Dans une vision d'aménagement du territoire régional, les chemins de Compostelle sont alors conçus comme une trame, un trait, qui relie des communes haltes, des points, véhicule d'un passé culturel prestigieux, capable de nous arracher de nos vies quotidiennes par leur puissance évocatrice. Et l'association, portée sur les fonts baptismaux le 25 juillet 1990 à Aubrac, était chargée d'animer cette démarche.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
L'Évangile arrive dans 4 minutes environ. Où que vous soyez, ne loupez pas vos émissions préférées en podcast ou profitez du direct. Où que vous soyez, oui, en train de vous balader, faire votre potager ou même faire du sport, vous pouvez retrouver votre radio préférée sur l'application smartphone. Radio Présence. Tout de suite, Elton John. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation's strong into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling. Negative.
L'Évangile.
En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande : d'où me connais-tu ? Jésus lui répond : avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend : je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute : amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration, nous célébrons aujourd'hui la fête des trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. L'Écriture et toute la tradition de l'Église nous aident à comprendre que ces archanges sont des créatures qui se trouvent devant Dieu, qui sont orientées de tout leur être vers Dieu. Ce sont des messagers de Dieu. Et c'est précisément parce qu'ils sont tout proches de Dieu que les archanges peuvent être également proches de nous, proches de nos vies. Michel signifie en hébreu « qui est comme Dieu ». Michel défend la cause de l'unicité de Dieu contre la présomption du dragon, le serpent des origines, comme le dit saint Jean. Nous rencontrons l'archange Gabriel, en particulier dans le précieux récit de l'Annonciation à Marie. Gabriel est le messager de l'incarnation de Dieu. Et Raphaël signifie en hébreu Dieu guérit. Et il nous est présenté tout particulièrement dans le livre de Tobie, comme l'ange auquel est confiée la tâche de guérir de l'aveuglement. La parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui nous offre de grands enseignements importants vraiment pour notre vie, pour la réponse que nous avons à donner chaque jour au Seigneur. Nous avons entendu dans la première lecture, nous présente des images qui sont très fortes. Cette vision de la lutte de l'archange Michel et de ses anges contre, nous dit l'auteur du livre de l'Apocalypse, contre le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier, avant d'être finalement défait, comme nous l'avons lu, Satan qui existe présente les choses comme si elles étaient bonnes. Mais nous savons qu'il n'a qu'une seule intention, et son intention profonde, c'est celle de détruire l'être humain. Et il le fait avec des motivations prétendument humanistes. Les anges, eux, luttent contre le diable et ils nous défendent. À ce sujet, dans une de ses homélies, le pape François, qui n'hésite pas à parler du diable, disait « La lutte est une réalité quotidienne de la vie chrétienne. Dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre peuple, dans nos églises, si on ne lutte pas, nous serons défaits, disait le pape. Et il continue en disant que la mission que le Seigneur a donnée principalement aux anges, c'est bien celle de lutter et de vaincre. Le chant final au terme de cette lutte, nous l'avons entendu dans le livre de l'Apocalypse, est d'une force et d'une beauté inouïe. Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait nuit et jour devant notre Dieu. Dans le passage de l'évangile de Jean, après que Jésus ait vu Nathanaël, après qu'il ait prononcé l'un des éloges certainement le plus beau de toute la Bible, « Voici un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël, nous l'avons entendu, accepte Jésus comme Messie. Et il fait une merveilleuse confession de foi. « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Voyez-vous, sa confession de foi n'est qu'un début. Celui qui sera fidèle verra le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Que veut dire le Christ ? Que signifient ces anges qui montent et qui descendent ? Nous l'avons dit, nous le savons, les anges, selon la pensée biblique, sont une présence de Dieu. Lorsque le Christ dit qu'autour de lui, Fils de Dieu, ses apôtres verront de nombreux anges qui montent et qui descendent, eh bien, il veut leur signifier que celui qui croit fera l'expérience unique, l'expérience extraordinaire que Jésus est le nouveau lien entre Dieu et nous, entre Dieu et chaque homme. C'est, frères et sœurs, le rêve de Jacob qui est devenu réalité. Alors, au cours de cette Eucharistie, demandons une grâce. Une grâce importante pour chacun de nous. Nous laisser regarder et nous laisser aimer par Jésus. Lui offrir notre cœur et notre vie avec confiance pour qu'il puisse agir en nous et autour de nous, comme il l'a fait avec Nathanaël, et devenir, comme Nathanaël, des témoins crédibles, des témoins courageux de l'évangile de Jésus. Demandons cette grâce aujourd'hui au cours de cette Eucharistie par l'intercession des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Amen.
Dans 4 minutes, le rappel des titres avec Lubi Dalgiro et à 13h, votre journal de Radio Vatican. En attendant, un beau message de la part des enfoirés, liberté sur votre radio chrétienne.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jeûne,
sur les clubs en enfance,
j'écris ton nom.
Saison fiancée,
j'écris ton nom
sur
ton échiffon d'azur,
sur le temps soleil moisi,
non, sur le lac lune vivante,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne des montes,
j'écris ton nom.
Sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et sale,
j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur tout touché accordé,
sur le front de mes amis,
sur chaque main qui se tend,
j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits,
sur mes phares écroulées,
sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Sur la santé revenue,
sur le risque disparu,
sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom.
Et par le pouvoir de mon, je recommence ma vie.
Liberté, 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 liberté,
liberté, liberté.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Le rappel des titres avec Luc Vidalgero dans notre partie d'Occitanie.
L'accélération de la propagation du Covid en Occitanie oblige le CHU de Toulouse à s'adapter. L'hôpital Purpan a annoncé hier être passé en plan hôpital en tension. Très concrètement, cela veut dire que certaines opérations non urgentes sont reportées et les visites aux patients interdites. L'EHPAD de Sévrac d'Aveyron vient d'annoncer un 17e décès parmi ses résidents. Après la détection d'un foyer d'infection au sein de l'établissement il y a 3 semaines, la situation semble maîtrisée, mais ce patient qui était en fin de vie a néanmoins été emporté. Toujours à propos de cette crise sanitaire, une délégation de cafetiers et de restaurateurs toulousains doit être reçue aujourd'hui en préfecture. Ils sont vent debout contre les nouvelles règles leur imposant une fermeture anticipée à 22h. Carole Delga sera bien candidate à sa succession à la tête de l'Occitanie. La présidente de notre région le dit aujourd'hui dans un entretien à la Dépêche du Midi. Le phénomène reste pour le moment une énigme, mais il est bien réel. Les mutilations de chevaux se multiplient dans notre pays depuis plusieurs mois et n'épargnent aucune région. Dans le Tarn-et-Garonne, 2 attaques ont été enregistrées au cours du mois de septembre. Un collectif de bénévoles s'est créé pour surveiller les chevaux et prévenir d'éventuelles mutilations. L'Institut des jeunes aveugles de Toulouse choisit le Lot. Il va implanter à Cahors un centre d'éducation spécialisé pour déficients visuels. Un Gersois, à la direction des antennes de France Télévisions, Florent Dumont, 41 ans, originaire de Lombez, a été nommé à ce poste par la présidente du groupe public, Delphine Ernotte. Et puis le trafic ferroviaire entre Montauban, Cahors et Brive devrait être rétabli dans la journée. Il avait été interrompu ce week-end suite à un problème d'alimentation électrique.
Radio Présence à Foix, 100.2. Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin. Est-ce que c'est encore d'actualité?
Les chemins de Compostelle ont été mis au service de la construction de la paix entre les hommes.
Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Nous ne pouvons pas savoir ce que l'humanité va devenir au cours des prochains millénaires. En revanche, il s'agit de découvrir le destin des systèmes planétaires.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Pour cette fin d'heure, la météo. Cet après-midi, vous aurez des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées, 17 degrés de moyenne. Demain, le retour du soleil avec quand même des températures plutôt fraîches. 6 degrés à Rocamadour ainsi que dans l'Aveyron, 8 sur le bord de la Garonne à Toulouse ainsi qu'à Auch et 10 pour Saint-Gaudens. L'après-midi, quelques nuages viendront décorer le ciel, mais vous aurez bien sûr des rayons de soleil avec 18 degrés pour le Lot à Auch et dans la Haute-Garonne ainsi qu'à Lourdes et 14 pour Rodez. Dans un instant, Radio Vatican arrive. Moi, je vous dis à demain et prenez soin de vous.
Présence à Aix-les-Thermes, 92.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Après des mois d'invectives, l'heure du face-à-face a bientôt sonné à 35 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis. Donald Trump et Joe